réjouis d'entendre M. Guy Lecomte parler sur d'un souvenir de Solferino au congrès des Charpies. Moi, j'ai aucune idée ce que c'est le congrès des Charpies, alors je vais être très contente de l'apprendre. M. Lecomte est un spécialiste de l'histoire des unions chrétiennes des jeunes gens. Il est naturellement aussi un membre du comité d'organisation de ce colloque. Il est un spécialiste aussi de l'histoire militaire et un descendant du colonel Lecomte, duquel a été parlé hier par M. Langendorf. Et je me réjouis, je lui passe la parole. M. Lecomte, je vous en prie.
C'est très gentil. Il faut quand même que je rectifie une petite inexactitude. Je ne suis pas un grand spécialiste d'histoire militaire. Ma spécialité, c'est l'histoire des paysans de montagne jurassiens entre le 14e et le 19e siècle. Bon, mais j'ai dû, pour des raisons familiales, m'intéresser à un personnage qui est mon arrière-grand-père. Il est né en 1826, mais c'est mon arrière-grand-père. Et j'aurais souhaité ne pas en parler aujourd'hui parce que c'est toujours un tout petit peu embêtant quand quelqu'un qui a un lien avec le sujet dont il parle en parle. Il y a la tentation de la géographie, la tentation d'excuser le personnage, etc. Donc j'avais choisi un autre thème avec Roger quand on a monté l'affaire. On s'est dit on pourrait parler des sources. C'est d'ailleurs pour ça que je suis placé maintenant. Les sources du souvenir de Solferino. Et à l'usage, je me suis aperçu qu'il n'y a pas tellement de sources, elles sont inidentifiables pour la description de la bataille, qui est d'ailleurs pas intéressante, parce que comme on vous l'a expliqué hier, tout le monde est très bien dans cette bataille de Solferino, l'empereur des Français est admirable, l'empereur d'Autriche est courageux, et puis tous ceux dont on parle sont courageux. Et alors, c'était pas tout. À ce moment-là, il s'est passé un incident, hélas, que je déplore, j'avais contacté un jeune historien vaudois, David Auberçon, lui dit on pourrait peut-être étudier ce qu'on disait la revue militaire suisse du souvenir de Solferino. Et puis il a dû, parce qu'il était chargé, il a dû renoncer à présenter sa communication. Alors j'ai dit oui, bon, je vais prendre la revue militaire et voir ce qu'on en dit, mais ça m'embêtait parce que ça me renvoyait évidemment au fondateur de la revue militaire suisse, Ferdinand Lecomte, qui, comme vous le savez maintenant, mon arrière-grand-père, mais dont j'espère que je vais le traiter avec une certaine impartialité. Revenons maintenant, non pas à Solferino, mais au souvenir de Solferino, et alors là, encore un autre élément, Roger ayant beaucoup de travail, et puis nous, moi aussi, nous n'avons pas pu coordonner nos exposés, et je me suis aperçu, à l'écouter, qu'il y avait un certain nombre de points de convergence. Alors, donc, à peu près au début du mois d'octobre, les épreuves sont faites, les premières épreuves sont faites, elles circulent, et Dunant veut jusqu'au dernier moment corriger un certain nombre de choses. Et dans le courant du mois d'octobre, il prend contact avec le bibliothécaire cantonal vaudois, donc Ferdinand Lecomte, qui est accessoirement colonel de milice, lieutenant-colonel de milice, et il lui pose un certain nombre de questions sur la bataille. Il parle aussi, d'ailleurs, de la guerre de sécession, parce que Ferdinand Lecomte vient de rentrer de Yorktown, où il a assisté à une partie de l'opération de McClellan. Et il discute, et puis le 27 octobre, Dunant écrit à Lecomte pour lui demander des renseignements supplémentaires. Et Lecomte répond le lendemain. Et ces renseignements supplémentaires, il y en a un qui est incomplet d'ailleurs, ces renseignements supplémentaires sont dans le souvenir. Ce qui veut dire que Dunant les a entrés entre le 28 octobre, date de réception de la réponse, et puis la parution du livre, vous avez la facture du livre. Alors, ce que je crois, c'est que le livre a dû paraître entre le 31 octobre, les premiers exemplaires qui sont reliés disponibles, et le 5 ou 6, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il lui demande comme renseignement? Eh bien, la réponse du colonel explique bien ce que c'est. Monsieur, en vous remerciant du plaisir que m'a procuré votre aimable visite, et en réponse à votre honorable lettre d'avant-hier, je viens vous dire, 1. vous pourriez porter l'effectif autrichien hardiment à son 70 000 hommes. Oui, parce que les Autrichiens ont beaucoup plus de soldats que ça, mais c'est le nombre de soldats engagés. 2. Mettre environ 500 pièces d'artillerie. 3. C'est le drapeau noir qui indique les blessés. Alors en fait, le drapeau noir indique les hôpitaux et un drapeau rouge indique les ambulances. 4. Vous êtes dans le vrai en disant qu'on s'est battu plus de 15 heures. Il est vrai aussi que le feu était sérieusement engagé à 6 heures du matin. 7 serait peut-être plus juste, mais tout dépend au reste de ce qu'on peut entendre par sérieusement. Je me serais fait un grand plaisir de vous offrir à titre de renseignement, à titre d'hommage, un exemplaire de ma campagne de 1859. Malheureusement, je n'en ai pas un seul à ma disposition et je me sers pour mon usage personnel de celui qui appartient à la bibliothèque, veuillez agréer, etc., etc. Puis après, il s'aperçoit qu'il a oublié l'histoire du Fanion Rouge et quelques jours plus tard, il écrit que, ma foi, je viens de retrouver que si les hôpitaux ont un drapeau noir, les ambulances sont un Fanion Rouge. Donc les ambulances, c'est les hôpitaux de campagne. Mais je vous avoue que je n'en ai pas par moi-même le souvenir. Au moment où cette lettre arrive, évidemment, le souvenir avait déjà page. Mais Dunant avait frappé, évidemment, à la bonne porte pour ses renseignements. Le capitaine Lecomte, en 1859, est en mission d'observation auprès de l'armée sarde. En fait, il était le plus jeune membre d'une délégation dirigée par un colonel, mais il était le seul membre qui était arrivé sur place, les autres étant restés en Suisse. Il est plus ou moins bien reçu, ce qui fait qu'il suit les opérations, mais un peu à l'arrière. Et le conseiller fédéral Stampfli, comme à la fin du conflit devient évident que Napoléon III va récupérer la Savoie, à la fin de son séjour, Stampfli et Lecomte s'écrivent tous les deux jours à des adresses fictives, etc. Le conseiller fédéral Stampfli lui dit « Écoutez, vous pourriez maintenant observer les routes qui sortent de Savoie, puis qui mènent en Suisse, ou les routes pour le Piémont, etc. » Donc c'est une mission d'espionnage. Et à ce moment-là, évidemment, Lecomte pâte ses uniformes, ça se fait comme ça à l'époque, les met en poste restante, les envoie en Suisse, et puis habillé en Pékin, il va reconnaître pendant 15 jours les passages qui vont de Savoie. C'est vraiment un bricolage, on bricole, et on est au moment où on bricole la Suisse. Et alors, il est rédacteur en chef de la RMS, donc responsable de son contenu, il écrit la plupart des articles. Mais un certain nombre de fois, les articles sont écrits par plusieurs personnes et ils ne sont jamais signés. Ce qui fait que je ne peux dire qu'il a intervenu que quand j'ai une source extérieure qui indique bien qu'il a écrit tel article. Et cette source extérieure, elle existe pour la période qui nous intéresse. C'est la correspondance entre Lecomte et le général Jomini. Parce que Lecomte et Jomini s'écrivent assez souvent, une douzaine, une quinzaine de fois dans chaque sens par année à cette époque-là. Et au fond, cette correspondance, eh bien, à un certain moment, le comte peut dire « j'ai écrit tel article ou j'ai émis telle opinion ». Et alors j'ai cette preuve pour un seul article qui est assez intéressant et que nous allons voir plus tard. Alors je dis tout de suite que le comte est très embêté parce que c'est un ancien soldat de Dufour. Il était sergent d'artillerie pendant la guerre du Sonderbund. C'est pas de sa faute si sa batterie n'a pas été engagée, c'est un ancien soldat du four. Il a fait toute sa carrière, c'est un officier pauvre, hein. il est pas très riche, il a pendant bien des années des soucis financiers, il a fait toute sa carrière dans les troupes vaudoises, mais la bienveillance de Dufour lui était nécessaire, et Dufour lui a donné un sérieux coup de main, non pas financier, mais en lui fournissant des articles, quand Lecomte fonde, en 1856, la revue militaire suisse. Donc il doit beaucoup à Dufour, et il aime bien Dufour, je crois. Mais il doit aussi beaucoup à Jomini, puisque c'est Jomini qui va lui permettre un peu de percer, puisqu'il écrit cette biographie de Jomini. Donc il est coincé entre deux loyautés. Or, Dufour et Jomini se détestent. Donc il est condamné à un numéro d'équilibriste et finira par se casser la figure, et il se cassera justement la figure à propos de la fondation, du souvenir de Solferino. La revue militaire suisse publie des articles militaires de Lecomte de 1859, mais en 1859, elle publie également un commentaire des lettres qu'Appia envoie à un collègue. C'est le prélude à son bouquin sur les amputations militaires. Le rédacteur anonyme rappelle qu'Appia a conçu un appareil pour le transport des blessés et que cet appareil, à la demande de Larrey, baron d'Empire, a été primé en France. Mais il ajoute aussi, la revue ajoute ceci, le médecin-chef de l'armée suisse Lehmann a reçu à ce sujet une communication d'Appia qui lui avait été recommandée par le général Dufour. Alors, nous trouvons en 1859 une conjonction Appia-Dufour, en rapport avec le traitement des biens, et une corrélation Lehmann-Dufour-Appia. Or, Lehmann va présider la délégation suisse au congrès préparatoire de la Croix-Rouge en 1863. Alors, la revue, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la revue résume les conclusions d'Appia. L'Appia constate qu'à Solferino, après Solferino, il n'y a pas eu d'épidémie, que les amputations immédiates ont été meilleures que les autres, que les blessés ont beaucoup souffert du manque de chirurgiens et de transferts douloureux, que les secours dévoués ont été rapidement donnés par la population locale, mais, Appia le souligne, Brescia, ville de 40 000 habitants, a dû héberger 15 000 blessés. Les blessés ont été courageux, rarement refusé une opération nécessaire, et le rédacteur de la revue militaire suisse conclut, parce qu'il faut toujours que ça profite, n'est-ce pas, que tous ces détails servent d'encouragement pour le soldat de notre pays et de notre armée, mettons à profit pour nous-mêmes les expériences des autres nations, et si la patrie suisse est jamais menacée dans son honneur et dans son indépendance, sachons répondre à son appel, les uns pour la défendre les armes à la main, les autres pour lui prêter tous les secours qui seront à notre portée. Immédiatement après, la revue publie un rapport du médecin-major militaire Brière, Adrien Brière, un nom qui est assez oublié, et du médecin-major Wieland. Ces deux personnages, en août, ont été envoyés par le Conseil fédéral pour voir ce qui s'était passé en Italie sur le plan sanitaire. Donc ils vont visiter l'armée française et ses services et l'armée autrichienne. Ils n'auront pas le temps, disent-ils, de visiter l'armée piémontaise. Et ils publient leur rapport en 1859, rapport au Conseil fédéral sur une visite faite aux hôpitaux des armées en Italie en août 1859. La RMS en tire un article en 1860, un article fourni, sur les services de santé des armées françaises et autrichiennes qu'elle compare pendant la dernière guerre. Brière a vu fonctionner les deux systèmes bien différents et il constate que dans l'armée française, c'est le règne de l'intendance. Même les médecins militaires sont des pions et d'ailleurs ça devrait changer. Et tout le monde dépend finalement de 350 officiers d'intendance. Tous les transports et tous les soins aux blessés dépendent de ces 350 personnes. En plus, après, il y a les médecins, etc. Mais les médecins sont subordonnés à l'intendance. Première chose. Et alors, Brière dit, mais le corps médical proteste depuis 60 ans contre cette situation et le moment ne peut tarder où il sera complètement émancipé du vassalage de l'intendance. Parce qu'au fond, les blessés sont confiés par l'intendance aux médecins. Hein? Mais si vous voulez, la propriété des blessés dans l'armée française appartient à l'intendance. Alors, après ça, bon, ben, c'est l'intendance qui fait ramasser les blessés sur le champ de bataille, c'est l'intendance qui les met à l'intendance, etc., etc., etc. Après, Brière décrit tout le matériel qu'on emploie, ça nous intéresse moins. Chez les Autrichiens, c'est tout à fait déconcentré, c'est-à-dire que chaque chef de corps d'armée, il y en a 14 dans l'armée autrichienne, dispose d'une ambulance, d'une compagnie sanitaire, une par corps d'armée, hein, 245 hommes. Hein. Alors hier, M. Langendorf a donné les chiffres du total des gens engagés, parce qu'il a fait la multiplication de 245, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, mais par le nombre de corps d'armée engagés, et on arrive au fait qu'effectivement, les Autrichiens avaient un peu plus de soldats sanitaires, à peu près 2000, sur le champ de bataille. Mais c'est très peu de choses, 245 hommes, pour évacuer des blessés quand il y en a trop. Alors, bon, le système suisse semble préférable à Brière, parce qu'à l'époque, les moyens de secours en Suisse commencent au niveau du bataillon. Donc on peut tout de suite s'occuper des blessés sur place. Et Brière dit, changeons pas trop notre système. Mais Brière, lui, visite Solferino et se renseigne. Et alors, il signale l'arrivée à Castiglione. Alors là, on peut comparer avec le témoignage de Dunant, et ça, c'est un témoignage qui conforte celui de Dunant dans sa description, non pas de la bataille, mais de la façon dont les secours sont organisés. Le 24 juin de bon matin, vers 5-6 heures du matin, l'ambulance du quartier général arrive à Castiglione. Elle vient de Castelnuovo Et elle s'installe dans une caserne, dans l'église et dans un petit bâtiment tout à côté. On y reçoit les premiers blessés. Puis, le combat augmentant sans cesse, toutes les églises et un petit bâtiment servant de caserne à la gendarmerie furent successivement occupés. Et enfin, des blessés furent reçus dans des maisons particulières, ce qui compliqua le service. Les évacuations se faisaient aussi fréquemment et aussi nombreuses que le permettaient les moyens de transport sur Monte Chiaro et sur Brescia. Le nombre des blessés augmentait énormément, soit français, soit autrichien. En outre, arriva tout un convoi de prisonniers. C'était une ambulance autrichienne avec une vingtaine de médecins militaires et d'infirmiers qui furent immédiatement confiés, auxquels on confia immédiatement les blessés autrichiens. Ça concorde exactement avec le témoignage de Budon, qui dit bien qu'à Castiglione, il y a toute la charpie qu'on veut, il y a tout ce qu'il faut, l'ambulance est en train, simplement il y a beaucoup trop de blessés pour qu'on puisse s'en occuper, et c'est là que Dunant va monter son équipe, etc. Ce témoignage est intéressant. Bon, alors Brière raconte ensuite que l'ambulance autrichienne, la seule qui a pu fonctionner, de Pozzolengo, celle du 8e corps d'armée, est à l'œuvre dès 5h du matin, donc on ne peut pas dire qu'ils ont traîné non plus, mais que non seulement ils ont dû soigner des blessés, mais qu'ils ont dû se replier en soirée derrière le Mincio en emportant ceux des blessés qu'ils pouvaient emporter et ceux qu'ils n'avaient pas encore pu évacuer. En fait, on a l'impression, en lisant ceci, on a l'impression que ce qui a surtout manqué à Solferino pour le champ de bataille, on vous en a parlé hier, mais au niveau de l'organisation sanitaire, c'est que en colonne de marche, évidemment, les services sanitaires sont pas devant. Et à partir du moment où ils se déploient, ils sont submergés par le nombre infini de blessés qu'il y a, hein, puisqu'on parle de dizaines de milliers de blessés. La revue continue sa publication de sources, si j'ose dire, et en 1859, elle constate, à l'occasion de la remise de croix de Saint-Maurice et Lazare au docteur Appien, que la revue a mentionné, la revue revient sur son ouvrage « Le chirurgien à l'ambulance ». Et elle cite, et là ça nous intéresse, puisque nous nous intéressons aux fondateurs de la Croix-Rouge, elle cite un article de Monnoir louant Appia. Cet article apparu à Genève le 4 décembre 1859. « Ce petit volume, dit Monnoir, présente un véritable intérêt, et par la nature, et par la qualité des sujets qui y sont traités, et par la manière dont l'auteur les a compris et racontés. Il suffit de lire le volume du docteur Appia pour se convaincre qu'il a dû lui coûter de nombreuses recherches. Lecture des auteurs qui ont écrit sur ces matières, information verbale prise auprès des chirurgiens militaires les mieux qualifiés, observation personnelle recueillie par Appia dans les hôpitaux de la Haute-Italie qu'il vient de visiter. Article louangeur aussi cité par la revue du médecin, du chef, l'inspecteur du service santé militaire français. La revue signale enfin que les docteurs Lehmann, Erichmann, Wieland, Dittelm et Brière sont chargés d'une refonte de l'organisation militaire suisse. Elle signale que le souvenir, le rapport Brière, a été distribué en 1860 à tous les officiers, tous les médecins de troupes et tous les médecins d'ambulance de l'armée suisse. Donc on voit bien cette armée suisse qui essaye de tirer les leçons de cette bataille. Hein ? Ensuite, la revue s'intéresse à la fameuse conférence préparatoire de la Croix-Rouge en 1863. Le rédacteur de la revue va y consacrer plusieurs pages et va donner par exemple la liste complète de tous ceux qui y ont été délégués. Donc on ne peut pas dire que la revue militaire évite le sujet. Je dis le rédacteur, ben, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le comte qui a écrit l'article, j'y retrouve pas vraiment son style, mais ce que je sais, c'est que cet article va faire un résumé des démarches pour fonder la Croix-Rouge jusqu'au moment en 1863. Alors, il dit « Genève vient, il parle après la conférence, Genève vient d'être le lieu de réunion d'un congrès des plus intéressants, à la fois au point de vue philanthropique, médical et militaire. » Alors, je vous signale que, dans un beau style français, dans une énumération, on part toujours du plus bas, jusqu'au plus haut et le plus important. Donc là, c'est intéressant au point de vue philanthropique, médical et militaire, bien sûr. La Société Jeanne Voisin d'utilité publique avait reçu des communications variées du docteur Appien et de M. Henri Dunant sur les blessés de la campagne d'Italie. L'un et l'autre sur les champs de bataille et dans les hôpitaux avaient été frappés de l'importance apportée aux blessés de pont et d'abandon secours. Et puis après, on rappelle toute l'histoire, rappel des collectes organisées par Appien, qui organise ses collectes 6 mois à l'avance, en fait, il faut bien comprendre. Il va y avoir la guerre, faisons de la charpie. Et on fait de la charpie, on va l'envoyer. Et Appien va suivre sa charpie, d'abord à Turin, ensuite à Milan, et puis il visitera plus tard, ce ne sera pas en même temps que Dunant sur le champ de bataille de Solferino, mais il visitera plus tard Solferino. Plus tard, M. Appien se rendit sur le théâtre de la guerre comme chirurgien volontaire, s'employant aux soins des blessés qui affluaient des champs de bataille dans les villes de Turin, Milan, Brescia. Immédiatement après la campagne, il publia un volume de chirurgie militaire. Après, on rappelle la contribution de M. Brière. Puis, il y a quelques mois, M. Henri Dunant a publié, dans un petit volume très élégamment imprimé, on va oublier que l'auteur... Le comte est bibliothécaire cantonal vaudois, et sa grosse affaire, à part la Croix-Rouge en 1864, c'est de faire offrir à la bibliothèque cantonale vaudoise un facsimilé du Sinaiticus qui a été offert à Bâle, à Zurich, à Genève, et on a oublié Lausanne. Et le comte dit c'est quand même bizarre, parce que c'est nous qui avons la plus belle collection théologique. Alors il demande à Jomini d'intervenir, et comme chaque fois que le comte demande quelque chose à Jomini, Jomini dit « Oui, peut-être, vous auriez peut-être demandé à Zinoviev, ou un peu plus pour finir, il se débrouille autrement pour avoir le volume, mais il est toujours à la bibliothèque cantonale vaudoise. » Bon, revenons à notre affaire. Tous ces antécédents incitent la Société genevoise et l'utilité publique. Elle se demande si elle ne pourrait pas contribuer pour sa part à répondre à l'idée de former en temps de guerre des compagnies d'aide ou de secoureurs volontaires. Il n'y a pas encore le mot secouriste. À l'époque, on parle de secoureurs. Alors, il raconte le programme, l'envoi, son heureuse initiative, vivement secondée par des efforts multipliés de M. Henri Dunant, fut couronnée d'un plein succès. Un comité directeur fut composé des membres suivants. 1. Le général Dufour, président. 2. Moynier. 3. Docteur Monnoir. 4. Docteur Appien. 5. Henri Dunant. Alors, il y a le préjugé du militaire peut-être. Ce que je constate, c'est qu'à la description des débats, puisqu'il y a la liste des intervenants, puis pourquoi ils sont intervenus, au fond, la revue va surtout insister sur ce bel exemple de camaraderie militaire, et puis surtout insister sur les difficultés que représente l'entreprise. Mais enfin toujours, nous n'en aimerons pas les participants, alors il y a le médecin, il y a le docteur Enguerre, déjà Enguerre, mais celui-là est le chef de l'armée, chef médecin, chef de l'armée autrichienne. Il y a le chirurgien majeur Landa qui représente l'Espagne. J'en dirai rien parce qu'il sera l'objet de la communication de M. Monico. Il y a l'intendant, c'est même pas l'intendant, c'est le sous-intendant de la garde impériale Préval, et Bourdin, médecin principal pour la France. Loeffler, général Arts de l'armée prussienne, délégué par Von Rohr. Et puis Basting pour les Pays-Bas. Basting qui a déjà traduit en hollandais le souvenir de Solferino au moment où la conférence préparatoire. La Suisse a une grosse délégation. Il y a les membres du comité, ils sont tous là. Il y a 2 délégués du Conseil fédéral. Lehmann, médecin-chef de l'armée, et Brière. Le Conseil fédéral a quand même envoyé ses meilleurs hommes, hein, puisqu'il c'est une conférence technique. Il y a 3 délégués de la Société des sciences sociales de Neuchâtel. Il y a Moratel, qui est vice-président de la Société d'utilité publique vaudoise. Et puis il y a Engelhardt, un médecin de division de l'armée fédérale, qui est venu tout seul. Hein. Les discussions se passent au palais Hénard, qui a été prêté par Mme Hénard. 4 jours de séance à 5 heures chacune. Les résolutions sont votées à l'unanimité. C'est des desiderata pour les gouvernements, mais elles sont longuement discutées. Les représentants de la France émettent des doutes sur la réalisation de l'idée en général, tout au moins la considèrent comme extrêmement difficile. Ils présentent des vues pratiques d'une grande justesse de fond, avec un tact exquis. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le discours du chirurgien prévisal français, le docteur Bondier, fut particulièrement marqué et ne manqua pas d'exercer une influence salutaire sur la direction des débats. Le docteur prussien considère l'insuffisance des secours officiels après une bataille comme un fait constant. mais comme un résultat inhérent à la nature même des choses. Il y a trop de blessés pour ceux qu'on peut soigner. Plusieurs orateurs s'expriment avec autorité dans le même sens. Donc on voit bien que la revue, le rédacteur, hein, explique tout ce qui ne va pas dans le projet. Mais alors ce qui va bien, c'est la camaraderie. On doute qu'on trouverait des volontaires en assez grand nombre. Quelles activités pour eux en temps de paix? Alors Mona arrive à dire, oui, mais il faut quand même qu'il y ait des volontaires, parce que même si on sauve que quelques personnes avec ces volontaires, la vie humaine est tellement précieuse qu'on aura réussi notre affaire. Alors on lui accepte cela. Le volontaire doit être désintéressé et subvenir à son entretien. C'est un vieux souvenir du service étranger, etc. Et alors, en discutant, ces braves gens admettent qu'il y aura deux catégories de volontaires, des gens riches et instruits, qui seront les officiers des autres, qui sont des hommes forts de corps, mais intellectuellement plus élémentaires, sans fortune, payés par les comités et obéissant aux ordres des volontaires riches. Vive discussion sur la neutralisation, et puis après, Appia invite tout le congrès, à discuter chirurgie militaire dans sa propriété, et on se termine, bons amis, on est bons amis, on se quitte, on est bons amis. Bien, c'est bon, voilà. Et là, il y a un petit changement qui va beaucoup influencer, non pas ce rédacteur anonyme, mais la revue militaire dans son ensemble, c'est que on se quitte fin octobre, et à partir de novembre, commence un conflit. Et ça, je crois que les historiens de l'origine de la Croix-Rouge devraient se pencher sur ce qui s'est passé entre le congrès préparatoire et la mise en route de la conférence. Il y a eu une guerre. C'est la guerre contre le Danemark. Et cette guerre contre le Danemark, elle commence à peu près en décembre, il y a la tête. Elle est menée par l'Autriche-Hongrie, la Prusse et la Confédération germanique. Le Landgrave de Hesse-Cassel a même proposé à la Confédération germanique qu'on attaque le Danemark sans déclaration de guerre préalable. C'est vous dire. Et alors, au fond, en Suisse, tout le monde va se retrouver danois. Alors, ça peut sembler bizarre, et ça semble bizarre à certains, mais il est bien clair que la cause danoise en Suisse va avoir des avocats, et on aura la revue militaire, ça je pourrais vous le dire. Mais pourquoi ? Réfléchissons. En 1856, c'est une affaire à l'envers. C'est une principauté prussienne qui veut être canton suisse, alors que là, c'est une principauté danoise, la principauté d'origine de la dynastie danoise, qui voudrait devenir allemande, n'est-ce pas ? La Prusse avait beaucoup menacé. L'armée suisse avait mobilisé. Amiel avait composé le roulé de tambour. Et le général Dufour avait fait des plans. Hein ? Et il avait fait des plans pour sortir de Suisse, pour surprendre l'armée prussienne quand elle n'était pas encore entrée en Suisse. Le comte avait deviné le plan de Dufour, comme Jomini jadis avait, paraît-il, deviné celui de Napoléon. On a une lettre de Dufour qui dit « Vous avez mis le doigt dessus ». Bon, toujours est-il que 7 ans plus tard, les Prussiens, c'est les gros méchants, mais ajoutez aux Prussiens les Autrichiens, ennemis héréditaires. Ajoutez toute l'Allemagne, vous avez vraiment un petit Danemark qui va se faire tanner par le gros, et la grosse surprise, ça sera que le petit Danemark se fera tanner par le gros, mais enfin qu'il y mettra quand même le temps, hein. On est danois. Et d'ailleurs, à Lausanne, la société militaire crée un comité de secours aux blessés danois. On ne peut pas envoyer de charpilles, on ne peut pas envoyer de volontaires, on enverra de l'argent. Et c'est dans cette optique que se prépare alors la réunion du mois d'octobre. Et cette réunion, le 25 juin, le rédacteur en chef de la RMS écrit un article à propos de cette réunion. Le rédacteur en chef, alors je sais que c'est lui parce que je bénéficie de la correspondance de Jomini Lecomte. Le rédacteur en chef, lui, il a lu jusqu'au bout la réponse de Dufour à Dunant. Il n'a peut-être pas lu la pièce, mais il a suffisamment discuté dans les cercles militaires pour savoir qu'au fond, le général Dufour, il a quelques doutes quant à la praticabilité de la chose. Et, comme en plus, il s'agit de faire un traité supplémentaire. Eh bien, peut-être qu'il n'y a plus lieu de faire, pense le rédacteur en chef. Et alors, il écrit un long article à la sollicitation du gouvernement français. Le Conseil fédéral a invité 18 États des diverses parties du monde à une nouvelle conférence pour s'occuper des blessés en temps de guerre. La conférence s'ouvrira le 8 août prochain sous la présidence de M. le général Dufour, qui a bien voulu, à la demande du Conseil fédéral, se charger de cette corvée. Le problème, c'est que le compte se base sur l'avis de Dufour, qui entre-temps a été converti à l'idée, il n'est peut-être pas praticable, mais ça vaut la peine d'essayer, et Dufour est très content de présider le Congrès. Ce qui fait que le compte va se retrouver un peu en froid avec un de ses deux protecteurs, et immédiatement d'ailleurs l'autre, je me dis, c'est pour ça qu'on le sait, n'est-ce pas, va jeter toute l'huile qui peut sur le feu qui commence à brûler. Hein. Il est à espérer que tous les États convoqués se feront représenter, quoi qu'on sache, à vrai dire, que plusieurs d'entre eux eussent préféré tout autre mode d'invitation. On ne comprend pas trop, en effet, quelle est à cet égard la situation réciproque du Conseil fédéral et du gouvernement des Tuileries. Là, c'est si on fait quelque chose, faisons-le nous-mêmes. Hein. Si c'est ce dernier qui tient essentiellement à la réunion internationale en faveur des blessés, il pouvait, semble-t-il, en faire lui-même la convocation. Il en a plus l'habitude que nous. Il ne faut pas oublier que la Confédération, c'est un état jeune. Si c'est au contraire le Conseil fédéral qui poussait du noble besoin de répondre au loin ses vues philanthropiques, il aurait eu plus de chances de bon accueil en s'adressant directement aux États en son propre nom comme représentant d'un pays indépendant et neutre, plutôt qu'en se plaçant sous le patronage du gouvernement français. L'attaque est rude, mais dans l'affaire danoise, Napoléon III, en soutenant le duc d'Augustenbourg, puis finalement en se retirant de la course pour parler contre le vœu des peuples, a beaucoup louvoyé et beaucoup déçu. Hein. La Suisse ne doit pas altérer la moindre parcelle de sa souveraineté. Mais il y a plus grave, la neutralisation, et là alors le contreprend les arguments du four, la neutralisation pose problème. Au reste, et sans préjuger la question de savoir si nos autorités fédérales n'eussent pas mieux fait de s'abstenir totalement de cette affaire, nous continuons à penser que les décisions de la conférence n'auront pas plus de résultats réellement utiles que celles de l'année précédente. Bon, on est en train de bis repetita non placent. L'année précédente, on s'était quitté, mon ami, les Danois n'étaient pas là, hein, ça aide. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment où on écrit cette lettre, n'est-ce pas, le prince de Reuss, qui avait été à la conférence préparatoire, n'est-ce pas, et qui représente l'ordre teutonique, le prince de Reuss est en train de construire un hôpital à Altona pour recueillir les blessés allemands de la guerre. N'est-ce pas. Alors, on arriverait en effet à la neutralisation rêvée des services sanitaires en campagne qu'en compliquant et en prolongeant les opérations elles-mêmes, et par conséquent en augmentant le nombre des victimes, ce qui serait loin de répondre aux généreux sentiments des promoteurs de cette œuvre. Est-ce que le comte est contre, parce que c'est lui hein, qui écrit cette œuvre, est-ce qu'il est contre une œuvre pour les blessés? Non, mais il ne croit pas à son caractère permanent. Alors là, je vous assure, Roger et moi, nous ne sommes pas consultés, et c'est tout à fait frappant. Former des comités pour exciter la charité publique et pour recueillir des secours de toute espèce, mettre promptement ces secours à la disposition de l'administration militaire, réunira-t-on des volontaires pour les ambulances et les hôpitaux, donner à ces volontaires un signe distinctif ou un uniforme qui les distingue des autres corps francs et les fasse jouir des égards qui, dans toutes les nations civilisées, entourent les chirurgiens et leurs aides des deux camps, voilà tout ce que le public compatissant peut effectivement faire pour l'armée. Mais cela se pratique avec plus ou moins d'entrain, il est vrai, depuis des temps fort antérieurs à ceux du comité. Hein, et il n'a pas été besoin de grand étalage diplomatique pour maintenir jusqu'à nous des traditions d'humanité et de saine philanthropie. Donc enfin, la pratique d'accord, et le comte est cohérent avec lui-même, puisqu'il préside un comité d'aide aux Danois, qui va accueillir 9087 francs et 60 centimes, et qu'on va envoyer tout de suite au Danemark. Là, ça serait un petit constat intéressant, mais il y a deux autres considérations qui méritent d'être soulignées. Je commence par la dernière, parce qu'elle est formulée de façon un tout petit peu archaïque. Si on neutralise, une part du champ de bataille, il va s'y installer des espions. Où on va essayer de couvrir différents trafics, on va flanquer des Croix-Rouges, je ne sais pas, sur des choses qui ne sont pas des ambulances, etc. Et ça, il faudrait que le comité y voit tout de suite et qu'on prévoie des sanctions si ça se fait. Non ? C'est pas mal vu, puisque le comte racontera dans son histoire de la guerre 1870 la façon dont le comité français de la Croix-Rouge a exfiltré le général dont on parlait hier, l'Africain Bourbaki, de la forteresse de Metz, pour l'envoyer conseiller l'impératrice Eugénie, qui ne savait plus trop que faire après la bataille de Sedan. Il aurait mieux valu pour Bourbaki qu'il ne soit pas exfiltré, il serait resté dans Metz avec Bazaine, et il n'aurait pas eu besoin de se jeter une balle dans la tête après avoir vu ses armées rentrer battues aux Verrières. La passion. Mais le comte se dit, mais au fond, est-ce que ça ne pourrait pas servir à autre chose, un comité? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres actions qui seraient plus utiles? En revanche, ce que l'éminente congrégation appelée à Genève pourrait mieux que d'autres décider avec autorité, c'est l'admission d'un uniforme ou d'un signe commun pour les services sanitaires des divers pays. Cette réunion serait bien placée aussi pour stigmatiser les cruautés inutiles à la guerre. Alors là, il va donner quelques exemples qui sont pris en Algérie, les fumeries de Saïda, des indigènes enfumés par la Légion, et comme il faut balancer le massacre des prisonniers français par Abdelkader sur les frontières du Maroc, les hideux trophées des Monténégrins jouant naguère aux boules avec des têtes des soldats de Marmont. Alors là, ça revient au Premier Empire, mais les Monténégrins continuent, puisqu'ils garnissent encore aujourd'hui le palais. Les grilles du palais de leur prince, Petrovic Negoc, hein, qui était en même temps évêque, c'est assez curieux, des têtes turques coupées. Les victimes des noyades de Nantes. Donc le comte se dit, mais le CIC, on pourrait intervenir dans les guerres civiles. Ça serait utile. Aux déportations brutales de peuples entiers. Là, ça serait utile. Aux mitraillades dans les rues des capitales, qui tuent ordinairement bien plus d'inoffensifs que de combattants. Là, il y a Syrie aujourd'hui, bonjour. Aux bombardements des ports marchands, etc., etc., etc. Je termine par la liste des invités. Et alors, bien, il est remonté contre le comité et poursuit ça. Correspondance avec Jomini. Et alors, le 16 août, il écrit à Jomini, notre fameux congrès siège à Genève, il va en sortir des merveilles, dit-on, car tous les disciples des congrès de la paix s'en mêlent. Pour moi, je crois qu'ils n'arriveront à rien de sérieux tant qu'ils ne neutraliseront pas les champs de bataille et les armées. Quant à la Suisse en particulier, je me demande à quoi peut nous servir cette farce. Si quelqu'un de nos voisins s'avise de ne plus respecter la neutralité de notre pays, donc ça doit être utile au pays, hein, respectera-t-elle celle de nos ambulances? Et là, c'est carrément l'exemple danois. Le Danemark était couvert par un certain nombre de traités imparfaits qui n'avaient pas été dénoncés. Les puissants, ils se fichent pas mal, les petits. Au fond, cette convention qu'on lui propose, c'est une nouvelle chaîne du fort sur le faible. C'est-à-dire que les faibles sont bien obligés de respecter les conventions, mais les forts peuvent s'en dispenser. On ne peut pas ne pas penser aujourd'hui au traité de non-prolifération nucléaire. Hein ? Vu qu'elle ne liera que celui qui sera tenu à la gorge. Vouloir faire de tels traités pour la guerre, alors que la guerre est le déchirement de tous les traités, me paraît le comble du ridicule. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas possible, hein. Vous savez qu'à Genève, pendant le congrès, et je vais quand même en dire un mot parce que il y a eu une émeute, il y a eu des morts. Cette émeute était dirigée par John Perrier, un sbire de Fazi, qui n'acceptait pas le résultat des élections. Les mutins ont été arrêtés, ils vont être jugés, et la revue militaire, évidemment, s'intéresse à ça, parce qu'il y a des troupes vaudoises qui viennent, le colonel Sigler, qui est commandant de la place de Genève. Et on va juger ces gens, on va les acquitter. Le comte a une autre raison de s'y intéresser, c'est qu'en 1860, John Perrier avait déjà essayé de débarquer à Thonon avec les troupes armées sur un bateau qui s'appelait l'Aigle d'eau, et que le Conseil d'État du canton de Vaud avait dû mobiliser l'hirondelle pour courir après Perrier et son bateau. L'hirondelle avait été finalement pris au Bouvray par le major Lecomte chargé de l'affaire, alors que le colonel Sigler, déjà lui, n'est-ce pas, arraisonnait les autres bateaux. Et alors, après ces... La revue militaire reprend ses émeutes de Perrier, et puis elle donne la liste des améliorations sur le sort des militaires blessés en campagne, la liste des signataires, elle signale que cette liste est toujours ouverte. Et puis dans le numéro suivant, le rédacteur annonce qu'il va faire encore quelques observations sur ce congrès. Il renoncera. Il va faire la même convocation, la même intervention au congrès des officiers d'état-major vaudois. Il y renoncera, mais il revient une dernière fois sur la chose lors des vœux de nouvel an au général Jomini. Il a entre-temps payé le roi de Danemark. À propos de Genève et du 22 août, les adhérents du fameux congrès des charpilles, comme les mauvais plaisants l'appellent, viennent d'échanger leur ratification. Il paraît que c'est un fiasco complet et que la Prusse a fait des réserves en tant que membre de la Confédération germanique. Il ne faut pas trop s'y attacher. Chaque fois que la Prusse devait s'engager à quelque chose, elle faisait des représentations parce qu'elle était membre de la Confédération germanique. Les Suisses avaient voulu étudier un canon prussien. Ils avaient demandé un exemplaire de ce canon pour l'étudier et pour éventuellement l'acheter. Et la Prusse a dit « Oui, écoutez, on vous prêterait volontiers, mais il nous faut l'aval de tous les membres de la Confédération germanique. » Et au fond, on s'est trouvé dans la situation que le Liechtenstein fasse veto et que la Suisse ne puisse pas voir ce canon. Donc les Suisses n'ont pas vu ce canon, ils l'ont acheté plus tard. Mais pour la conférence, le comte constate, la France y reste seule avec ses alliés, nous compris, cela va sans dire. Cela n'empêche pas que pour les intrigants, et le mot est dur, qui ont monté toute cette affaire l'an passé, l'œuvre, soulignée, l'œuvre, a parfaitement réussi, on les constelle de décorations de tous côtés. Et la Suisse d'en payer les frais un jour ou l'autre. Ô turpitude, que va nous apporter 1865 ? Je sais pas, mais on ne devrait jamais écrire des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas préjuger de ses propres réactions. Le roi de Danemark, touché de l'effort fait par le colonel Lecomte en faveur de son petit pays, n'a rien trouvé de mieux à lui offrir que le grade de commandeur dans l'ordre du Dannebrog. Et il faut le dire, le colonel Lecomte l'a accepté. Vous pouvez voir la médaille aujourd'hui au musée militaire de Morges, avec sa Saint-Lazare et avec l'ordre de la couronne d'Italie dont il était officier. Donc, il n'y a pas que les membres du comité de la Croix-Rouge qui cherchaient des décorations.
Merci beaucoup, Monsieur Lecomte. Effectivement, fascinant. J'ai déjà toujours aimé l'histoire, mais aujourd'hui, c'est extrêmement bien. Et puis, ça me donne l'envie de nous pencher beaucoup plus. C'est vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que vous avez des questions directement à poser à Monsieur Lecomte ou des remarques? Oui, Cornelio.
Monsieur Lecomte, vous allez vous parler de la guerre des duchés. Alors, je voudrais savoir si, dans la revue militaire suisse, il y a une mention de l'expédition Bastille-Apia qui se sont rendus l'un au Danemark, l'autre du côté allemand-prussien, qui ont, selon ce que j'ai lu quelque part, même arboré un drapeau Croix-Rouge avant la convention de 1864.
Oui, alors, il n'y a pas de mention précise de l'événement. Hein. Il y a de nombreux articles dans la revue militaire sur la guerre du Danemark. D'ailleurs, le colonel Lecomte écrira un livre sur la guerre du Danemark. Je ne sais pas, un livre extraordinaire d'ailleurs, un livre d'écriture, il est écrit vite, c'est plutôt du reportage, etc.
qui ne travaillait pas durablement, et l'expédition d'Akka, il faut bien comprendre, c'est une expédition quasiment privée. Akka est un franc-tireur. Il va effectivement avec Bastide, ils vont arborer la Croix-Rouge, et il récidivera en 1866, lors de la guerre entre la Prusse, l'Autriche, la Confédération germanique et l'Italie, et son ambulance, une ambulance piémontaise, mais on appelle l'ambulance vaudoise parce qu'elle avait été organisée par son frère, qui était Georges, qui était pasteur des églises vaudoises du Piémont, n'est-ce pas ? Cette ambulance ira servir derrière les volontaires de Garibaldi, n'est-ce pas ? Et Garibaldi, d'ailleurs, va fournir un certain nombre de témoignages de satisfaction au travail. Mais ça, c'est la Croix-Rouge, avant la Croix-Rouge. Hein. Les premières missions vraiment officielles, elles sont de la guerre de 1870. Et là, ça a relativement bien fonctionné. C'est-à-dire que, bon, mais ça a aussi été des premières violations graves. Parce que c'est quand même une violation grave que d'exfiltrer un général de corps d'armée pour qu'il puisse servir ailleurs alors qu'il est cerné. Et alors là, je crois que au fil du temps, le colonel de Conseil s'est aperçu que bon, c'était mieux utile. Il y a eu un certain nombre de pression qui pratiquait assez l'autocensure quand même. On a dit, écoute, c'est un sujet, la Croix-Rouge a pris position prise, on flèche, attendons, voyons ce que ça va donner, etc. Et ça va donner quelque chose, mais là, je pense que l'historien de la Croix-Rouge, ça c'est une idée que j'ai, devrait beaucoup se poser sur cette question. Est-ce que ça n'a pas été une chance, finalement, pour la Croix-Rouge, qu'après 1870, il y a eu en Europe une longue période de presse, pendant laquelle sociétés locales ont pu s'organiser, former des volontaires, faire leur preuve et être prêtes pour les conflits du XXe siècle.
Merci beaucoup, Monsieur le Comte.